21h passées de quelques secondes sur votre radio locale. Voici votre émission littéraire sur Radion, c'est Wagon Livre et nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Je suis particulièrement heureux ce soir parce qu'avec notre invité que je vais vous présenter dans quelques secondes, nous allons évoquer au cours de cette émission un théoricien du théâtre. Mais ce n'est pas qu'un théoricien du théâtre. Cette figure littéraire qui est issue d'une famille d'armateurs marseillais est née en 1896. Il a révolutionné la conception du théâtre. Il fut lui-même acteur au théâtre, travailla avec Dulin, mais il a aussi été acteur de cinéma. On rappellera son rôle mémorable dans le Napoléon de Abel Gance. Et il a aussi passé beaucoup d'années en hôpital psychiatrique en raison de troubles nerveux graves hérités d'ailleurs de l'enfance. Je veux parler de l'auteur du théâtre et son double qui a paru en 1938, mais aussi de recueils de poèmes, mentionnons l'Ombilique des Limbes, le Pesner par exemple. Il est mort il y a 70 ans et il s'appelait Antonin Artaud. Et pour dérouler la vie et éclairer l'œuvre de cet homme génial et maudit, je suis heureux d'accueillir Laurent Vignat. Bonsoir Laurent Vignat.
Bonsoir Yannick, merci de me recevoir.
Alors, nous sommes heureux de vous accueillir, Laurent, à bord de Wagon Livre, parce que vous venez de faire paraître une biographie d'Antonin Artaud, une biographie, comme le souligne la quatrième de couverture, qui se lit comme un roman, et qui a pour titre « Antonin Artaud, le visionnaire hurlant », et qui est disponible en librairie aux éditions du Jasmin. On vous avait reçu, Laurent, pour un roman l'année dernière, au mois de novembre, pour Monsieur I, également aux éditions du Jasmin. Je rappellerai que vous êtes né en 1970, que vous êtes écrivain, que vous avez mené des études de lettres à la Sorbonne, que d'ailleurs Antonin Artaud vous a occupé pour des travaux universitaires, enfin, c'était le sujet de votre thèse. Vous êtes professeur de lettres actuellement en Saône-et-Loire et donc aussi écrivain, et ce soir donc l'invité de Wagon Livre. L'introduction à cette biographie passionnante qui se lit vraiment dans un esprit didactique, ce n'est pas universitaire, au contraire, c'est coloré, c'est romancé aussi avec les faits qui sont fidèles. Vous n'avez pas trahi la vie d'Antonin Artaud. D'ailleurs, il y a une préface signée du neveu d'Antonin Artaud. Vous dites que l'exercice de la biographie n'a pas été finalement un travail si paisible que cela.
Oui,
surtout
alors
surtout sur Artaud.
Alors effectivement, quand je me suis lancé dans ce travail, un petit peu à la demande de mon éditeur, je voulais le faire pour sortir un petit peu Artaud de ses ornières à la fois universitaires et psychiatriques, et pour faire en sorte de le rendre accessible à tout public. Alors on aura l'occasion de revenir sur pourquoi c'est un auteur qui peut intéresser tous les publics. Et puis c'est vrai que, bon, je me disais effectivement, écrire une biographie, c'est parfait, j'ai le début, j'ai la fin. Je n'ai pas grand-chose à faire, si ce n'est à faire des bonnes recherches, à bien les digérer et ensuite à les mettre par écrit. Or, la vie d'Artaud est une vie intéressante dans la mesure où, d'abord, c'est un auteur qui n'a cessé de remettre en cause les bornes de la vie et la mort, la naissance et la mort. Et donc, c'est vrai que c'est assez troublant de voir que lui considérait que la mort n'existait pas. Donc, c'est vrai que pour un biographe, ça met dans une espèce d'incertitude métaphysique. Alors, je l'écris dans la préface, mais il est vrai que cette œuvre a un tel retentissement qu'elle dépasse largement les bornes arbitraires, en quelque sorte, de la naissance et de la mort.
Alors, Artaud est né le 4 septembre 1896 à Marseille. Dans quel milieu social le jeune Antonin Artaud va-t-il évoluer ?
Alors, avant de parler de milieu social, il faut revenir aussi un petit peu à l'origine des parents. Donc, le père Antoine Roy Artaud. Alors déjà, roi, c'est intéressant en soi. Il y a toujours une difficulté dans le rapport au père. Donc le père Antoine Roy est provençal et la mère Nalpas, donc Euphrasie Nalpas, est originaire de Smyrne. Alors Smyrne, c'était un port en Turquie, c'est Izmir maintenant. Donc dès le départ, il est à la croisée de l'Orient et de l'Occident. Et Marseille, de ce point de vue-là, est une ville emblématique. Donc, je crois beaucoup à l'explication d'une vie, d'une existence par ses implantations géographiques. Donc, dès le départ, chez Artaud, il y a cette tension entre l'Europe et l'Orient. Son père est capitaine au long cours, donc quelqu'un qui est souvent parti, qui s'occupe surtout des échanges entre Smyrne et Marseille. Et donc plus tard, Artaud aura lui-même cette envie des ailleurs, cette envie de voyage qu'il concrétisera entre autres par son voyage au Mexique. Donc c'est une famille de bonne bourgeoisie. Autre fait important à relever concernant l'enfance d'Artaud, c'est venant de la mère, une grande religiosité, une sorte de catholicisme robuste. Artaud est élevé donc chez les pères jésuites et dès le départ, il sera fasciné par l'image de la Vierge Marie. Et donc, il aura à cœur, par exemple, chez lui, tout petit, de mettre en scène la crèche, de faire parler les petits centons de Provence. Donc, il a été élevé dans ce catholicisme un peu rudimentaire, un peu primitif, et on en retrouvera des résurgences dans son œuvre, tout au long de son œuvre, puisque le rapport d'Artaud à la religion catholique, ce sera à la fois un rapport de fascination et de rejet absolu.
Blasphémateur,
voilà.
Il y a la grand-mère qui joue un rôle important, une grand-mère exotique.
Une grand-mère exotique, hein, puisqu'elle vient de Smyrne. Ça sera pour Artaud l'ailleurs, hein, vraiment la représentation de l'ailleurs. Elle va lui permettre aussi de s'initier assez tôt aux autres langues. On aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais Artaud a un rapport à la langue française assez conflictuel aussi. Et plus tard, il sera soucieux d'inventer sa propre langue dans le français. Et on peut considérer que cette grand-mère qui parlait italien, qui parlait un peu le turc, très tôt va sensibiliser l'enfant à cette passion pour les langues.
Alors, je l'ai dit, donc, Artaud est né en 1896. Le petit garçon va très rapidement connaître de gros problèmes de santé parce que l'état de santé d'Artaud va miner toute sa vie.
Oui, et va faire son œuvre, effectivement. Pour comprendre Artaud, donc la biographie s'appelle Le visionnaire hurlant, et on peut commencer par hurlant, parce que c'est vrai que dès l'âge de 4 ans, Artaud va rencontrer des problèmes nerveux très importants. Donc à l'âge de 4 ans, il est victime d'une méningite assez sévère. Donc dans le livre, je raconte qu'à l'époque, dans beaucoup de bonnes familles bourgeoises, la fée électricité... c'est vraiment le remède pour tout. Et donc, les parents achètent un kit électrique qui était composé d'un tabouret avec des pieds en verre et d'une espèce de perche qu'on électrifiait. Et donc, l'enfant était revêtu d'une espèce de tunique. Et donc, on passait cette tige en fer pour provoquer des petits chocs électriques. Et j'ai lu à ce propos, en préparant le livre, une thèse qui date de 1904, où on considérait que l'électricité pouvait, entre autres, soigner tous les problèmes nerveux. Et on citait dans cette thèse, par exemple, la danse de Saint-Guy. Et ce qui est assez troublant, on verra que dans la vie d'Artaud, il y a comme ça des échos assez étonnants. C'est vrai que Artaud, faut pas l'oublier, sera l'un des premiers en France sur lequel on va expérimenter, fin 43, les électrochocs. Donc il y a une sorte de continuité assez troublante. Mais c'est vrai que la maladie psychique va totalement déterminer la vie d'Artaud et va déterminer son œuvre. Et donc effectivement, c'est à partir de cette maladie, c'est à partir de ces crises qu'il va construire son œuvre.
Alors Artaud a 18 ans lorsque éclate la Première Guerre mondiale. Alors il est réformé, mais finalement il va tout de même être incorporé, mais assez brièvement. Il ne va pas connaître la guerre comme André Breton la connaîtra
en tant que
médecin dans les tranchées avec ses horreurs.
Il va la connaître plus tard en jouant dans un film d'après le roman de Roland Dorgelès, Les Croix de Bois. Mais non, il sera assez vite réformé. Et alors, assez curieusement d'ailleurs, donc cette courte incorporation, c'est un régiment qui était à Digne. Il va assez bien vivre visiblement ce moment-là. Et curieusement, cette maladie va à la fois le soustraire à ses obligations militaires, mais aussi va interrompre brutalement ses études. Comme il le dira lui-même, à cause de sa maladie, il n'est qu'un demi-bachelier. Or, on verra après que ce sera surtout un autodidacte absolument, absolument incroyable, dévorant des bibliothèques entières. Mais sur le plan des études, voilà, c'était le, le premier bac et pas le deuxième. Et donc, il va très rapidement, à l'âge de 18 ans, il se sent déjà comme une espèce d'être à part, inspirant autour de lui ce que Freud appelait une étrangeté inquiétante, une inquiétante étrangeté. Et très vite, dès l'âge de 18 ans, il se sent très différent des autres.
En tout cas, les parents sont tout de même préoccupés par l'état de santé de ce jeune fils. Et d'ailleurs, heureusement qu'ils avaient les moyens, puisque oui, finalement, ils lui ont permis d'être examiné par peut-être les sommités de l'époque, dans un univers psychiatrique qui balbutie.
Oui, alors c'est vrai que c'était une des grandes chances d'Artaud, c'est que tout au long de sa vie, il a joué de réseaux, ce qu'on appelle aujourd'hui des réseaux. À commencer par sa famille, sa mère en particulier Euphrasie, son père va mourir assez précocement en 1924, et donc sa mère va s'occuper tout au long de sa vie de son fils. Et ensuite, on verra que ce sont les amis d'Artaud qui vont prendre le relais, en quelque sorte, des aides apportées aux soins. Mais c'est vrai que toute son adolescence va se passer de clinique en raison de convalescence, et dans un milieu un peu aseptisé. En tout cas, déjà, un milieu qui le retranche de la normalité, qui le retranche de la vie de tous les jours, tout simplement.
Il faut dire aussi qu'il a eu une mère très aimante, qu'il l'a beaucoup couvé, qu'il l'a beaucoup aimé. Enfin, il a été un fils aimé.
Voilà, il a été un fils aimé. Et surtout, il a eu de la chance assez tôt de rencontrer... Alors, à l'époque, on ne disait pas des psychiatres, on disait des aliénistes, de rencontrer un certain nombre de personnes. Alors, je pense au docteur Maurice Dardel en particulier, qui avait une clinique à CUP près de Neuchâtel. Et donc, de rencontrer ces aliénistes qui, à l'époque, étaient souvent des humanistes d'ailleurs. C'est des gens qui lisent énormément, qui s'intéressaient à l'art-thérapie. On aura peut-être l'occasion aussi de reparler de Dr Ferdière plus tard. Et donc, il a beaucoup de chance de rencontrer des aliénistes ouverts au monde des arts. Et c'est grâce à ce Maurice Dardel, donc en 1918-19, que Artaud va pouvoir partir à Paris.
Alors, on aura aussi l'occasion d'y revenir, mais finalement, Artaud a passé beaucoup d'années de sa vie en hôpital psychiatrique.
Oui. Oui.
Neuf années d'enfermement.
Alors, neuf années d'enfermement ferme, et puis plus c'est donc ces périodes d'hospitalisation qu'il a connues pendant son adolescence.
Laurent Vigna, si vous le voulez bien, on marque une première pause musicale à bord de ce wagon-livre. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'une biographie intitulée Antonin Artaud, le visionnaire hurlant, que l'on peut se procurer aux éditions du Jasmin. Nous revenons dans une poignée de minutes.
Donné l'envie de croire à l'amour. J'ai oublié ce qu'était l'ennui avec tes mots de velours, tes promesses qui m'obsèdent nuit tes jours. Je veux me réveiller chaque matin, ton corps blotti contre le mien. Je veux mon cœur en tes deux mains pour qu'il tâte avec le temps. Là, mon sourire s'assombrit. Même si souvent tu me mens, amour, amant et ennemi, toujours contre toi, je m'oublie. Je veux me réveiller chaque matin, ton corps blotti contre le mien. Je veux mon cœur en tes deux mains pour qu'il tâte avec le temps. Cache derrière tes airs indifférents. Sous tes baisers et tes caresses, je sais qu'il y a tes sentiments. Tu m'aimes chaque jour plus profondément. Je veux me réveiller chaque matin, ton corps blotti contre le mien. Je veux mon cœur en tes deux mains pour qu'il tâte avec le temps.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Antonin Artaud, le visionnaire hurlant, c'est le titre de la biographie de notre invité, Laurent Vignat, qui nous accompagne ce soir jusqu'à 22h sur Radion. Antonin Artaud, effectivement, va découvrir Paris et le début des activités intellectuelles d'Artaud, parce que finalement, c'est quelqu'un qui a quelque chose à dire, personnage qui surprend tout de même un peu, enfin... génial et inquiétant, fascinant, enfin un mélange très, très détonnant tout de même.
Alors pour commencer, donc, quand il arrive à Paris en 1920, donc, il est accueilli par le docteur Édouard Toulouse, qui donc l'accueille, qui est médecin à l'asile de Villejuif, mais là il n'est pas interné, il vit simplement à côté chez le docteur Toulouse. Et ce docteur Toulouse fait partie de ces aliénistes ou psychiatres qui considèrent que la meilleure thérapie, c'est très moderne d'ailleurs, la meilleure thérapie c'est d'emmener les malades au théâtre, de leur faire faire de la peinture et de leur faire faire de la poésie. Et donc, Artaud lui arrive avec ses manuscrits, parce que bon, la poésie, il a commencé à écrire dès l'âge de 15-16 ans. Et le docteur Toulouse l'envoie rendre compte de petites expositions. Le docteur Toulouse était aussi directeur d'une revue, qui s'inspire d'ailleurs des doctrines hygiénistes de l'époque, de gens comme Pierre de Coubertin, considérant que l'art, la culture du corps pouvait donc améliorer l'état psychique des malades. Donc Artaud va voir ses premières expositions de peinture, et en particulier il va écrire en 1920 une note absolument prodigieuse sur le peintre Modigliani. Donc c'est quelqu'un qui va sentir l'art contemporain en train de naître, et surtout Toulouse lui conseille de prendre des cours de théâtre. Et donc, pour ce faire, il va s'inscrire dans la troupe de l'atelier de Charles Dullin, homme très important du théâtre de l'avant-guerre. Hein. Charles Dullin, on le connaît tous parce qu'il a immortalisé la gare des Michards avec cette figure d'Harpagon. Les plus anciens se souviendront de ces images qu'on avait dans les classiques Larousse. On voyait Charles Dullin en Harpagon. Et Dullin, c'est une personne un petit peu qui annonce les expériences théâtrales de 68, puisqu'on parle beaucoup de 68 en ce moment, des gens comme Mouchkine, par exemple, puisqu'il crée une communauté autour du théâtre où quand on s'engage dans le théâtre, il y a les cours de théâtre, il y a la représentation, mais il y a aussi les fabrications du décor, la gestion administrative, etc. Donc, Artaud rentre dans la troupe de l'atelier, et au départ il est pris un peu comme une sorte d'énergumène assez étrange, et d'ailleurs Dullin s'en plaint beaucoup et au départ lui donne simplement à faire que des bruitages. Et Artaud se paraît absolument incroyable, puisqu'il est capable, avec rien qu'avec sa bouche, de faire un bruitage de foule. Et il va beaucoup marquer ses contemporains à cause de cette prédisposition. L'époque aussi de Dullin, c'est aussi le moment où il va rencontrer une jeune femme très importante pour lui, qui s'appelait Jenica Athanasiou. Donc ce sera sa première relation amoureuse. On aura peut-être l'occasion d'en reparler, puisque la vie amoureuse d'Artaud fut... Assez complexe. En tout cas, c'est une relation qui va durer quelques années, qui va donner lieu à une très belle correspondance. Elle était même comédienne originaire de Roumanie. Et on peut tout de suite dire que cet amour naissant sera assez rapidement gâché par le problème de la drogue. Et ça, c'est aussi un dernier point dont il faut souligner, qui va poursuivre Artaud, qui sera un petit peu le contrepoint de sa souffrance psychique, c'est que dès l'âge de 18 ans, donc à l'époque où il est hospitalisé à la clinique de Neuchâtel, le docteur Dardel lui prescrit du laudanum pour la première fois. Laudanum, c'est un dérivé de l'opium. Et Artaud lui-même remonte sa dépendance à cette date précise de 1918. Et à partir de là, il ne pourra plus jamais se passer de drogue pour supporter ses états psychiques. Quoi. Il souffre.
Dans la troupe de Dullin, dans ses débuts au théâtre, Artaud a des qualités exceptionnelles d'improvisation, oui, que Dullin va finir par reconnaître, même si au départ, effectivement, Artaud surprend un peu. Vous racontez d'ailleurs, à un moment, Dullin demande à Artaud de jouer le rôle du roi Charlemagne, Et Artaud a une façon très étrange de jouer Charlemagne, enfin, dans une séquence bien spécifique.
C'est une adaptation de Charlemagne, c'est le déclin de Charlemagne. Et donc Charlemagne doit donner son pouvoir à Charlot, son fils. Et donc Artaud aimait beaucoup ses rôles d'empereur et de roi. Donc il décide, puisque c'est le déclin de l'empereur, d'arriver sur scène en rampant. Et alors, ce qui met Dulin dans une colère folle, parce qu'un empereur ne peut pas ramper, et ce n'est pas réaliste. Et il y a une opposition, puisque pour Artaud, le fait que Charlemagne rampe, ce n'est pas véritablement une recherche de réalisme, c'est simplement sur le plan symbolique, montrer que l'homme de pouvoir, un jour, va ramper comme tous les autres. Et donc, il y a aussi ici, effectivement, chez Artaud, l'idée que la scène doit être à la fois une image, mais aussi une réalité. On aura l'occasion d'en reparler lorsqu'on parlera un tout petit peu de sa pensée sur le théâtre.
Alors, on a évoqué Artaud, bon, très original, commençant à avoir des conceptions très particulières du théâtre occidental. Il veut briser les codes, enfin, il est iconoclaste d'une certaine manière. Il faut dire aussi qu'il a très peu d'argent, il a eu des périodes où il a été SDF. Il y a donc le laudanum, la drogue qui crée une accoutumance terrible. On peut dire qu'il est englué quand même dans d'énormes problèmes.
Oui.
Alors, ligoté par des tas de problèmes et sans doute aussi une problématique personnelle.
Oui, alors c'est vrai que donc, tout au long de sa vie, il va être confronté aux mêmes problèmes, donc de la toxicomanie et des crises psychiques. Mais encore une fois, ce qui est très important concernant Artaud, il faut le penser par rapport à un réseau d'amis. Donc, arrivé à Paris, il est pris en charge par Toulouse. Ensuite, c'est la troupe de Dulin qui le prend en quelque sorte en charge. Et en plus, chose absolument incroyable, c'est qu'il va très vite rencontrer des gens qui ont compté dans le XXe siècle. Je prends simplement l'exemple de cette pièce, donc la pièce Antigone, l'adaptation de Cocteau, où Artaud joue le rôle de Tirésias, le devin. Il faut quand même savoir qu'on a à l'affiche en décor Picasso, Pablo Picasso, pour les costumes Gabriel Chanel, pour la musique Arthur Honegger. Et donc Artaud va attirer à lui tous ces gens brillants, ces gens de l'avant-garde, et qui vont toujours avoir pour lui beaucoup d'empathie. Donc c'est vrai que même au moment les plus compliqués de son existence, il a toujours eu ce réseau autour de lui. Et ça casse un petit peu, si vous voulez, l'image du poète maudit, délaissé, etc. En fait, ça n'a jamais été le cas. Il a toujours pu profiter, il a toujours attiré à lui des personnes brillantes, des artistes brillants qui l'ont soutenu.
Une sorte de magnétisme.
Voilà, c'est de magnétisme.
Alors, il écrit, il est aussi poète. En 1923, c'est 1925, Gallimard donc, fait paraître l'ombre.
Alors là, il faut parler un tout petit peu de cette histoire parce que c'est assez étonnant. Oui, il est poète. Simplement, en 1923, il envoie des poèmes à la NRF, alors qu'il vient de renaître après la Première Guerre mondiale, et dont le directeur de publication est Jacques Rivière, hein, qui fut dont l'épouse était la sœur d'Alain Fournier, hein, pour situer un tout petit peu les choses. Donc Rivière reçoit ses poèmes et il ne les trouve pas bons. Et il est vrai qu'en le lisant aujourd'hui, on les trouve nous-mêmes un peu pâteaux, un peu précieux.
Puis Rivière est un peu impressionné par Artaud.
Pas tout de suite. Alors, donc, Rivière annonce, donc, écrit à Artaud en lui disant, voilà, je refuse vos poèmes parce qu'ils ne semblent pas être à la hauteur de la NRF. Et là, Artaud se met à écrire une lettre de réponse dans laquelle il explique pourquoi ces poèmes sont mauvais. C'est-à-dire qu'effectivement, il rend compte de cette effroyable maladie de mon esprit, c'est la citation, et il se met à faire un autodiagnostic de son mal, et Rivière est absolument subjugué par la fermeté à la fois de l'analyse, la beauté du style, et il décide non pas de publier les poèmes, mais de publier ces lettres qui justifient la qualité très moyenne des poèmes. Et c'est ainsi que Artaud entre en littérature, donc par la grande porte, la NRF, par un refus d'éditeur. Donc c'est une rentrée assez étonnante. Et donc c'est le début de sa carrière littéraire, puisqu'en 1924 est publiée cette correspondance entre Jacques Rivière et Antonin Artaud, laquelle correspondance va interpeller un personnage qui est en train de prendre son importance dans ces paris de l'après-guerre, qui est donc André Breton, qui va donc découvrir cette correspondance et il va tout de suite inviter Artaud chez lui pour faire la connaissance.
Alors, il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu, Laurent Vignas, c'est que Antonin Artaud est le créateur d'un genre littéraire, enfin, c'est la lettre interpellation.
Oui.
Vous en donnez un petit extrait, là, c'est page 49, dans votre... Je ne sais pas si vous voulez nous le lire volontiers.
Lettre interpellation. Alors, donc voilà, c'est donc Artaud sera un grand épistolier. Il va écrire beaucoup de lettres. Et cette lettre interpellation, c'est-à-dire qu'on va d'un seul coup écrire à une institution, à un pouvoir, pour dire ce qu'on en pense. Donc voici un exemple d'une lettre qu'il écrit en 1923 sur la loi sur les stupéfiants. Lettre à Monsieur le législateur de la loi sur les stupéfiants. Monsieur le législateur de la loi de 1916, agrémenté du décret de juillet 1917 sur les stupéfiants, tu es un con. Voilà, donc l'idée, c'est qu'effectivement, ça c'était déjà une activité surréaliste, c'est de jouer sur le décalage entre le style administratif et d'un seul coup cette insulte qui devient à la fois incongrue et assez efficace.
Artaud va donc rapidement intégrer le groupe des surréalistes, dominé par la figure du pape des surréalistes, André Breton. Enfin, on rentre chez les surréalistes comme on en est exclu très rapidement. Artaud n'est pas frotté de politique, alors que finalement les surréalistes vont très rapidement s'aligner sur l'expérience communiste de l'Union soviétique. Mmh. Artaud, lui, la politique, ça ne l'intéresse pas beaucoup.
Alors, pour revenir un tout petit peu sur l'aventure surréaliste, elle est très ambivalente. C'est qu'effectivement, en 1924, donc Artaud est intronisé dans le groupe avec donc Breton, Aragon, Philippe Soupeau. Et c'est une époque où le surréalisme est en train de vivoter. Alors je rappelle, sur le plan simplement de la théorie littéraire, le surréalisme est issu du dadaïsme. Et Breton veut sortir un petit peu du côté bonne rigolade, bonne pochade, et faire du surréalisme quelque chose de sérieux, vraiment de véritablement sérieux, qui parle de la société. Et donc, quand il rencontre Artaud, il se dit, tiens, moi, je tiens peut-être l'individu qui va pouvoir qui va lester le surréalisme d'une chose beaucoup plus importante, beaucoup plus dense que ce que c'était le dadaïsme. Et donc, c'est ce que va faire Artaud, puisqu'il va tout de suite s'embarquer dans l'écriture de la revue La Révolution surréaliste, la fin de l'ère chrétienne. Et là, Artaud va définir ce qu'est pour lui le surréalisme. Alors, on rappelle, 1925, c'est l'apparition du premier manifeste du surréalisme. Pour Breton, le surréalisme, c'est simplement la communication directe avec l'inconscient par le verbe, par la poésie. Artaud reprend à sa charge le surréalisme, dont je rappelle que le mot avait été une invention d'Apollinaire, mais en lui donnant une dimension beaucoup plus métaphysique. C'est-à-dire que pour Artaud, le surréalisme passe par une refondation complète de l'esprit humain. Et il faut que l'esprit humain retrouve son aspect métaphysique, c'est-à-dire sa spiritualité, pour le faire rapidement. Alors que pour Breton, le surréalisme doit forcément être confronté à la société. Et donc, dès le départ, dès 24-25, il va y avoir une scission entre Artaud et Breton. Artaud étant une vision beaucoup plus spirituelle, mystique du surréalisme, alors que Breton beaucoup plus politique. Et en 1926, Artaud se fait exclure du groupe surréaliste parce que jugé non marxiste. Entre-temps, effectivement, le surréalisme avait totalement fait sienne les théories marxistes. Il ne faut pas oublier l'influence de la révolution russe sur les intellectuels français. Et donc, à partir de là, c'est l'exclusion d'Artaud.
Laurent Vignat est avec nous pour Antonin Artaud, le visionnaire hurlant. C'est une biographie qui tombe bien en cette année 2018, donc qui marque le 70e anniversaire de la disparition de Antonin Artaud. C'est une biographie qui se lit comme un roman, qui est extrêmement agréable, très riche, didactique. J'y ai appris énormément de choses, ayant pourtant fait des études littéraires, mais vraiment, donc merci Laurent. Et c'est disponible aux éditions du Jasmin que l'on trouve facilement en librairie. On marque un intermède musical et on revient juste après, peut-être au moment de l'exposition coloniale, qui est aussi un événement marquant dans la vie d'Antonin Artaud.
spleen élégant, le blues enchanteur. Il devait être aveugle et sourd pour être allé faire un tour. C'est pas la peine de faire semblant, je sais qu'on n'est pas des géants. Viens, on pleure, on pissera moins. Toujours ça passera, ça va, ça vient, ça s'en va. Deux ans on en rira, toi et moi. Viens, je t'emmène au Palladium, on boira du rock and roll sur des vieux talagons. Si c'est les mères à poire, le grand fiasco, le chaos et son cafard, je t'en ferai des calembours et des comptines pour l'histoire. Tomber de chat, et danser là si tu chiales, je coule avec toi. Viens, on danse, ça se verra moins. Comme toujours, ça passera. Ça va, ça vient, ça s'en va. Dans deux ans, on en rira, toi et moi. Viens, je t'emmène au Palladium, on boira du rock'n'roll sur des vieux Italagones. Flamme éternelle, pluie violette, un gros taxi jaune.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Antonin Artaud, le visionnaire hurlant, c'est le titre de la biographie de notre invité Laurent Vignat. Elle est disponible aux éditions du Jasmin. Nous avons pas mal évoqué Antonin Artaud à ce moment de l'émission, donc théoricien du théâtre, poète, acteur, acteur de théâtre, acteur de cinéma aussi. Très important, je l'ai dit dans mon introduction, on le voit dans le Napoléon de Abel Gance, mais on le trouve aussi chez Dreyer et dans une adaptation des Croix de Bois de Roland Dorgelès.
Alors oui, il y aura encore beaucoup à dire sur le cinéma. Il faut retenir deux choses importantes. D'abord, donc effectivement, sa carrière d'acteur, deux rôles sont à retenir. On a effectivement le Napoléon d'Abel Gance, donc dans le rôle de Bonaparte, Albert Dieudonné, je rappelle. Et Abel Gance recherchait vraiment des figures qui ressemblent au personnage historique. Et donc, quand il voit Artaud, pour lui, c'est Marat dans sa baignoire. Et donc, il faut voir simplement ce film pour cette scène où on voit donc Artaud Marat tué par Charlotte Corday, parce que voilà, on a à la fois le tableau de David avec la dimension horrifique propre au film d'Abel Gance. Donc, ça a vraiment marqué. C'est une des figures marquantes d'Artaud. L'autre figure marquante d'Artaud, c'est dans La Passion de Jeanne d'Arc de Karl Dreyer, où il joue le moine Massieu. Et là, on a Artaud totalement mystique, magnifique. Alors, c'était un très, très, très bel homme, hein, il faut le dire aussi. Il avait des yeux extraordinaires et c'était une sorte de James Dean du muet, Artaud. Hein. Donc là aussi, on a un personnage magnifique. Donc, au niveau des rôles d'Artaud, c'était les deux rôles marquants. Deuxième point qu'il faut rajouter sur Artaud, c'est que Artaud a au départ perçu le cinéma comme les surréalistes, comme un art nouveau, un véritable art nouveau qui permettait, plus que le théâtre d'ailleurs, de montrer les ressorts de l'inconscient. Artaud a connu un petit peu Dali, et il a lui-même donc écrit un film, s'appelle La coquille et le clergyman, qui est à placer sur le même plan que Le chien andalou de Dali, par exemple. Le deuxième point, c'est que très vite...
De Buñuel
d'Ali. Hein.
D'accord.
Voilà, excusez-moi, réalisation de Buñuel et le scénario de Dali. Deuxième point important, c'est que dès 1930, le cinéma français devient parlant. Et là, pour lui, mais pas simplement pour lui, ça devient une grande déception. Le cinéma devient pour lui quelque chose d'un théâtre parlant. Et ça enlève en quelque sorte à l'image sa puissance. Et donc, à partir de 30 jusqu'à 35, il va poursuivre une carrière cinématographique qui sera strictement alimentaire.
Alors, passons peut-être à l'année 1931. Voilà. Laissons de côté le cinéma. Effectivement, voilà. C'est un des aspects des talents multiples de Antonin Artaud. En 1931, Laurent Vignat, se tient à Paris l'exposition coloniale. 110 hectares d'exposition. Il y a eu 35 millions de visiteurs.
Oui, dit-on.
C'est gigantesque.
C'est gigantesque. Il fallait montrer au peuple français l'étendue de son empire. Et donc, c'est vrai que Porte Dorée, alors on a eu la Porte Dorée, donc le bois de Vincennes était couvert de pavillons, de reconstitutions des grands monuments de l'Empire français. On se souvient surtout du temple d'Angkor Wat. Et donc le musée des colonies qui ouvre Porte Dorée, hein, maintenant qui est devenu le musée de l'immigration, il me semble.
Et puis avec des hommes venant de Nouvelle-Calédonie, voilà, en chair et en os, exhibés comme des bêtes sauvages.
On les faisait devenir sauvages, on faisait croire qu'ils étaient cannibales, on les mettait en cage. Le soir, néanmoins, on les libérait de leur cage, puis ils prenaient le métro, puis ils allaient au Music Hall. Voilà, donc, mais c'est vrai que c'est une réalité qui a été, entre autres, il y a un très bon roman, qui s'appelle Cannibal de Deninx, qui parle de cela. Et donc, Artaud se rend à l'exposition coloniale parce qu'il a entendu parler du spectacle de théâtre balinais, hein, petite île d'Indonésie, et donc de ces danseurs balinais. Donc on va lire peut-être ce moment très important qui sera un petit peu moment fondateur dans la conception de sa théorie théâtrale. Donc c'est le moment où Artaud s'installe dans le public et là il voit arriver les danseurs. Sur la droite de la scène s'ouvre alors la porte du pavillon balinais et s'avance sur un étroit perron des danseurs, une dizaine. Des jeunes filles pour la plupart, vêtues de vêtements lourds, dorés et coiffées d'aigrettes fleuries. Ce sont des astres étincelants, des petits soleils de peinture qui prennent vie à l'appel des flûtes ondulantes. Mécaniquement, ils descendent les marches du perron, se tournent vers le public et commencent à se déployer. Ils le font par des gestes d'une précision et d'une maîtrise inouïe. Tandis que les bras et les jambes géométrisent leur corps, leurs visages connaissent des tumultes. Leurs lèvres tendues à l'extrême et sourcils comme d'immenses virgules noires affolées. Car voilà que surgit au milieu d'eux un démon, la sorcière Rangda, terrifiante avec ses yeux globuleux, sa langue en pointe tombant jusqu'aux pieds, ses ongles longs recourbés comme les cernes d'un rapace et sa fourrure grossière. Une histoire, désormais, se raconte. Une histoire sans mots. Ou plutôt avec d'autres mots, qui sont ces gestes incisant l'espace, ces cris gutturaux, ces ponctuations caverneuses. Plus de textes appris par cœur, débités devant un public passif, mais des corps qui sont des phrases, des mimiques qui sont des drames. Si certains spectateurs sont désarçonnés et commencent à s'agiter, Il en est un qui est profondément ébranlé. Devant lui, Antonin entrevoit le théâtre dont il rêve. Un théâtre vivant, total, débarrassé des mots et de la psychologie, qui attaque dans un même mouvement l'âme et le corps, qui entraîne le spectateur dans une forme d'extase mystique. Illumination. Pas de temps à perdre. Fixer le vertige et le révéler au plus grand nombre. Déjà, des mots percutent ses tempes. Ces danseurs balinais sont des hiéroglyphes vivants et des métaphysiciens du désordre.
Merci Laurent Vignat, puis c'est aussi pour les auditrices et auditeurs l'occasion de bien cerner qu'il y a des aspects romanesques, comme ça vous rendez compte de ce théâtre balinais avec une très belle écriture. C'est un passage que je vous remercie d'avoir lu au micro parce qu'il est pleinement significatif et illustrateur de votre style, Laurent Vignat. Alors, ce théâtre balinais, c'est une découverte formidable pour Artaud, qui considère finalement que le corps doit exprimer plus que la parole, en fait.
Voilà, effectivement. C'est sur cette expérience, il y en a d'autres par la suite, qu'il va donc construire son théâtre. Le théâtre est son double, c'est-à-dire que le théâtre n'est plus un passe-temps, je dirais, bourgeois, où on va au théâtre pour s'amuser, pour écouter des bons mots, mais devient une expérience réelle. C'est-à-dire que le corps est tout aussi signifiant que le langage, que le corps a aussi à dire que la langue, et que ce qui va se passer sur scène est de l'ordre du réel. Si vous voulez, pour faire simple, au XXe siècle, deux théories vont dominer le théâtre. Vous avez la théorie brechtienne, c'est-à-dire que les comédiens sont sur scène, mais ils vous montrent qu'ils jouent la comédie. Et la théorie artaldienne d'Artaud, où les comédiens sont sur scène et ils font du réel. Et donc là, on a deux théories qui s'opposent, et c'est là qu'Artaud donc sera très, très visionnaire, puisque tout le XXe siècle, tout l'art dramatique du XXe siècle, si on prend simplement deux noms, je vais même prendre le nom de Maurice Béjart, hein, le grand chorégraphe, ou Antoine Vitez, le grand metteur en scène, ce sont des gens qui ont lu Artaud et qui, en quelque sorte, ont fait leur certaines intuitions d'Artaud. Donc ça, c'est vrai qu'il est très connu pour cela. Ce n'est pas l'aspect pour moi le plus intéressant de l'œuvre, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler.
En tout cas, le théâtre et son double donc, paraît en février 38 aux éditions Gallimard. C'est vrai que c'est l'œuvre peut-être la plus lue d'Artaud. Donc là, c'est de la théorie du théâtre, se débarrasser des illusions du décor, la recherche d'un théâtre de la vérité qui agisse directement sur l'esprit des spectateurs. Et c'est réfléchir aussi à ce que pourrait être un théâtre surréaliste, Antonin Artaud.
Oui, en quelque sorte. Artaud disait que le spectateur devait aller au spectacle comme on allait chez le dentiste. Voilà, pour véritablement vivre une expérience physique. Et ce que je veux dire par là aussi, il ne faudrait pas croire que Artaud était un théoricien, c'est un penseur. Et quand il émet une pensée, ça repose surtout sur sa propre expérience du corps. Puisque dans le théâtre et son double, qu'est-ce qui est exprimé aussi? C'est que son corps lui-même est souffrant, et pour se débarrasser de sa souffrance ou la sublimer, on en fait un théâtre.
Alors voilà. Pourquoi associe-t-il la peste avec le théâtre, Laurent? Ça devient un peu compliqué parfois aussi.
Alors,
que lire Artaud, ça demande un effort intellectuel. Alors, c'est pas des lectures faciles.
Non, c'est pas des lectures faciles. L'œuvre d'Artaud est profuse, elle est vraiment multiple. Il n'y a pas de roman, donc c'est une œuvre qui est composée de très grands textes, de lettres, de compte rendu de voyage.
Alors pourquoi cruauté? Pourquoi peste?
Alors, cruauté, tout simplement parce que pour Artaud, il faut absolument sortir du mensonge. Du mensonge social, du mensonge de l'identité sociale. Et le théâtre doit aider à ça. Et la vérité, elle est sur le théâtre. Et donc, la vérité, c'est aussi la maladie. Donc, le lien qu'il fait entre les deux, c'est que lorsqu'on est malade, on est vrai. Voilà. Et donc, c'est montrer une sorte de vérité radicale, une radicalité. Hein, chez Artaud, il y a une forme de radicalité qui doit se manifester sur une scène de théâtre.
Donc jouer la peste, c'est montrer le corps pestiféré. Donc.
C'est montrer le corps pestiféré. Et si vous voulez, pas plus tard que l'autre jour, je voyais Salo, les 120 journées de Sodome de Pasolini.
Ah oui,
et Pasolini est aussi un lecteur d'Artaud. Pour voir à quel point, effectivement, cette esthétique radicale a innervé, en quelque sorte, toute l'esthétique du XXe et du XXIe siècle.
Alors, Bien sûr, on ne peut pas raconter toute la vie, c'est impossible. On ne peut que vous donner l'envie de vous plonger dans la biographie de Laurent Vignat, qui est donc disponible aux éditions du Jasmin, qui a pour titre Antonin Artaud, le visionnaire hurlant. Il y a ce voyage.
Oui, il faut en parler.
C'est l'année important. Du Front Populaire, 1936, Artaud n'est pas en France, il décide de partir au Mexique.
Alors, un tout petit retour en arrière, donc. Après le théâtre et son double, il va essayer de mettre en application ces théories, entre guillemets, dans une pièce qui s'appelle Les Shenshi. Je ne reviendrai pas sur l'histoire, j'invite les auditeurs à lire la biographie. Mais en tout cas, c'est un échec colossal. Jean-Louis Barrault est obligé de lui prêter de l'argent, Jean Paulhan, etc. Donc c'est un échec colossal. Et là, Artaud se dit que son art ne peut pas être reçu en Europe. Donc il part au Mexique. Alors le Mexique, déjà tout jeune, était passionné par le Mexique. Donc il part au Mexique avec une bourse de l'éducation nationale. Et dans un premier temps, donc, il part au Mexique dans le cadre de l'Alliance française pour faire une série de conférences sur le surréalisme. Donc il est accueilli par toute l'intelligentsia mexicaine, dont Diego Rivera et donc l'ami de Frida Kahlo. Et donc tout le monde pense que Artaud va arriver et qu'il va légitimer en quelque sorte l'aventure marxiste qui a lieu au Mexique. Or, il refroidit bien vite les attentes du public, puisque Artaud arrive en disant qu'au XVIe siècle, les catholiques avaient en quelque sorte massacré les Indiens et qu'au XXe siècle, les marxistes faisaient exactement la même chose. Donc il renvoie dos à dos catholicisme et marxisme, ce qui déplaît fortement à l'intelligentsia mexicaine. Donc il est assez mal reçu de ce point de vue-là, donc il fait un site de conférence là-dessus. Et ensuite il décide de se rendre dans une communauté indienne qui a été la plus éloignée possible des influences marxistes, c'est la communauté des Tarahumara, donc dans l'état de Chihuahua. Alors ce sont des Indiens tout petits, avec des pieds agiles, Rahumara, ça veut dire pied agile, et qui sont capables de transporter à dos d'homme des poids de marchandises absolument colossales. Donc Artaud se rend dans cette communauté, il est reçu comme une espèce de mage. Alors il faut lire à ce propos ses récits de voyage, hein, ses voyages au pays du Tarahumara, et il en retire comme expérience, il explique qu'il goûte le dieu Shiguri, qui est en fait le peyote, donc un champignon hallucinogène, ça sera pour lui une expérience assez fondatrice, puisqu'il a l'impression d'un seul coup de se débarrasser de ce corps qu'il fait tant souffrir depuis le début de sa vie. Quoi.
Alors Laurent, vous êtes passionnant, le temps passe très très vite. Alors, après l'étape mexicaine, Artaud va décider d'aller découvrir la terre des druides, des Landes et des croix celtiques, donc un petit épisode en Irlande. On n'a pas le temps d'en parler. Il y a aussi ces deux fétiches, deux
la
objets fétiches.
La croix de Saint-Patrick, mais on n'a pas le temps d'en parler.
En revanche, pour vous, Laurent, ça a beaucoup d'importance. Oui. Vous voulez absolument évoquer la situation d'Antonin Artaud au moment de la déclaration de la guerre, la Seconde Guerre mondiale, et la situation des malades mentaux en milieu psychiatrique pendant l'occupation, parce que ça, c'était quand même terrible.
Alors, Artaud donc est interné en 1938 suite à son retour d'Irlande. Et donc, il sera d'abord interné du côté de Rouen, puis ensuite à Sainte-Anne. Alors, à Sainte-Anne, le premier interne qui le voit est Jacques Lacan. Donc, la vie d'Artaud est parsemée comme ça de gens qui ont fait le XXe siècle. Et surtout, ensuite, il sera interné à Ville-Évrard, qui est à Neugy, du côté de dans le 93, je crois. Donc, c'est terrible parce que donc 1940, c'est la débâcle. Le gouvernement nazi prend en main la France en zone occupée. Et il faut savoir que les dirigeants nazis avaient comme objectif donc de se débarrasser des malades mentaux. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va les affamer. On va les affamer. D'ailleurs, en interdisant aux responsables de nourrir les malades, on a quelques témoignages absolument bouleversants de malades qui broutaient l'herbe à Sainte-Anne, on le dit. Et donc, Artaud va maigrir de plus en plus et souffrir du scorbut. C'est pour ça qu'il va perdre toutes ses dents et ses cheveux en particulier. Donc, il y a vraiment eu en France une politique concertée des occupants pour vider par la mort, par la famine, les malades mentaux. Et donc, encore une fois, Artaud, il a la chance d'avoir un réseau, puisqu'en 1943, le poète Robert Desnos, grand poète qui était un grand ami d'Artaud, fait en sorte de faire sortir Artaud et de le faire passer la zone, la ligne de démarcation pour qu'il soit interné à Rodez, dans la clinique du docteur Ferdière, donc en Aveyron. Et là, le docteur Ferdière fera en sorte déjà de sauver Artaud de la famine. Et c'est lui qui va lui sauver la vie, quoi. Et s'il était resté en zone occupée, on peut être sûr qu'il aurait succombé à son manque d'alimentation.
Alors, vous l'avez dit d'ailleurs au cours de l'émission, Laurent Vignat, en dès 43, donc Artaud subit les premiers électrochocs, 58 chocs pendant un an et demi tout de même.
Alors, donc c'est quand il arrive à Rodez, le docteur Ferdière est un médecin qui croyait aussi en l'art thérapie. On se souvient tous de ce monsieur, puisque souvenez-vous, en 77, cette fameuse émission d'Apostrophe, où Bernard Pivot avait invité Charles Bukowski, l'écrivain américain, lequel, ayant abusé un peu du Sancerre, était totalement ivre sur le plateau. Et à côté de Charles Bukowski, il y avait le docteur, donc docteur Gaston Ferdière, lequel, ce soir-là, avait été violemment pris à partie par Cavana, puisqu'il a dit qu'il avait accusé d'avoir tué Antonin Artaud. Alors, la réalité est un petit peu différente. Docteur Ferdière, comme beaucoup de médecins à l'époque, pensait que l'électrochoc pouvait être un outil intéressant pour les grands dépressifs, les très grands dépressifs. Et donc, il commande en 1943 une première machine, laquelle était fabriquée par les ateliers Solex. Ils n'ont pas fait que des vélos moteurs. Bon, le problème à l'époque, c'est que ce n'était pas du tout contrôlé. Et donc, Artaud va connaître donc ses premières séances d'électrochoc en 1943. Et ce sera pour lui terrible dans la mesure où, comme il n'y a aucune maîtrise en fait, du courant électrique, il peut rester 3-4 semaines totalement hébété suite à ces séances d'électrochoc. Elles ont aussi une autre conséquence assez curieuse, une conséquence régressive. C'est qu'en 1943-1944, il va être dans une sorte de crise mystique. Après avoir été violemment anti-religieux, il devient extrêmement religieux, écrivant à ses amis, surtout ses amis femmes, qu'elles se convertissent, qu'elles ne s'adonnent pas à la sexualité, etc. Et ça sera une des conséquences assez étonnantes des électrochocs.
Alors, on pourrait mentionner aussi Van Gogh ou le suicidé de la société.
Qui est pour moi un de ses plus grands textes.
Un des textes aussi connus de
absolument.
De
c'est, si on veut lire un texte sur la peinture, sur le lien entre l'écriture et la peinture, c'est pour moi le grand texte du XXe siècle. Van Gogh, le suicidé de la société. Il parvient par les mots, par ses images, à mettre en quelque sorte en verbe l'aspect tumultueux de la peinture de Van Gogh. C'est un texte d'une puissance poétique absolument incroyable. On pourrait aussi également citer Elio Gabal ou L'anarchiste couronné, qui est cette biographie de cet empereur décadent, qui est aussi un très très grand texte.
Van Gogh, le suicidé de la société, publié en 1947. Alors, bien sûr, il y a la libération, les amis écrivains vont essayer de financer la vie d'Artaud, parce que l'hôpital psychiatrique, les asiles, ça coûte cher aussi. Mmh. Et puis, il faut pouvoir trouver des lieux qui accueillent un homme à la fois connu et dérangeant quand même, parce qu'il est quand même ingérable. Enfin, c'est pas facile quand même.
Oh ben, il y a cette fameuse scène, effectivement, donc en 1946, vous avez donc les amis d'Artaud restés à Paris. Jean Paulhan, Marthe Robert, Arthur Adamoff, André Gide, qui décident de faire revenir le poète à Paris. Ils organisent donc une soirée d'hommage au Théâtre du Châtelet. Et là, c'est un moment assez étonnant, puisque tout le Grand Paris se réunit pour vanter le grand poète Antonin Artaud. André Breton, qui courageusement était parti faire de la résistance aux États-Unis, revient en France à ce moment-là et loue Artaud. Simplement, on parle d'un absent, puisque en fait, Antonin Artaud, quand il sort de l'asile de Rodez, ressemble à un vieillard, il est mal fagoté, il est sale, donc il n'est pas bien présentable. Et donc, on lui fait comprendre que ce serait bien qu'il ne se montre pas. Donc, dans la salle principale du Théâtre du Châtelet, autrefois Théâtre Sarah Bernard, on loue le grand poète, lequel est assis au bord de la fontaine du Châtelet et fait les 100 pas en attendant que ça se passe. Et l'anecdote raconte qu'à un moment donné, Artaud veut quand même rentrer dans la salle et que l'ouvreuse qui est là ne le reconnaît pas et l'invite à sortir, le prenant sans doute pour un clochard. Voilà.
Enfin, il faut dire aussi que Artaud en société, c'est pas évident. Il rote, il crache, il pète. Oui. C'est terrible. Hein.
Oui, oui. Il a pas le vernis de. Et c'est ça qui est assez fascinant d'ailleurs. À la fois, c'est un homme rustre et en même temps très très élégant et très subtil. Il est toujours entre l'hyperlucidité et le délire. Voilà. Et c'est quelqu'un qui tient son délire en laisse. Et à n'importe quel moment, par exemple, quand en 1938 sort Le Théâtre et son double, il est lui-même en camisolé, il a quand même le souci de réclamer ses droits d'auteur chez Gallimard. Donc il n'oublie jamais ses livres. Ça, c'est très important.
L'ultime cible d'Artaud, ce sera Dieu.
Oui.
Alors, pour en finir avec le jugement de Dieu, un petit mot peut-être pour finir cette émission avant d'évoquer la mort d'Artaud en 48, en mars 48.
Alors, pourquoi Dieu ? Donc Dieu, bien sûr, est que minuscule. Comme tous les grands mystiques, effectivement, Artaud n'est pas athée, il est mystique, dans la mesure où l'athée va nier l'existence de Dieu et tout va bien. Alors que pour Artaud, Dieu est là, mais c'est forcément un être mauvais. Être mauvais, pourquoi ? Parce qu'il a l'impression que Dieu lui a volé son corps. Donc l'idée d'Artaud, c'est qu'il refasse son corps par son œuvre, par ses textes. C'est pour ça que ses textes sont constructeurs de corps. Donc il rêve d'un corps qui ne soit plus vampirisé par ce Dieu mauvais. Et c'est pour ça que toute son œuvre est basée là-dessus. Si je puis ajouter quelque chose aussi, c'est que j'essaie dans le livre de montrer des aspects moins connus de l'œuvre d'Artaud. Il faut savoir que c'est quelqu'un qui, par exemple, avait une pensée... à penser le productivisme capitaliste. Dans ce livre, pour en finir avec le jugement de Dieu, il y a toute une part sur la production. On est toujours en train de produire, et cette production exponentielle, au bout du compte, court à la destruction. Et donc il y a aussi une véritable réflexion sur les dangers de la société au XXe et XXIe siècle. Ce qui donne à cette œuvre un aspect extrêmement contemporain.
D'où le sous-titre, Le Visionnaire.
Le Visionnaire, voilà.
Hurlant. Et Artaud s'éteint le 4 mars 1948.
Voilà.
Il meurt subitement.
Alors, oui, alors... De
quoi est mort Antonin Artaud ?
Alors, la mort d'Antonin Artaud, le professeur Henri Mondor, grand spécialiste de Mallarmé, avait diagnostiqué un cancer de l'anus, une des conséquences de sa toxicomanie. Il faut le savoir, l'opium avait comme conséquence de totalement détériorer le système digestif. Et en faisant mes recherches, j'ai surtout vu qu'il est mort d'overdose parce qu'il a donc pris de l'hydrate de chloral en grande quantité. Et d'ailleurs, il le savait sans doute. Et il y a une espèce, je pense, d'abandon à la mort. Et j'ai l'impression, ce n'est qu'une hypothèse du biogénétique, ma propre hypothèse, qu'effectivement, il y a une mort assumée, un suicide assumé, donc par surdose d'hydrate de chloral.
La quatrième de couverture dit « Plus que jamais, dans notre époque incertaine, Antonin Artaud est une voix à faire entendre. » Merci Laurent Vignat d'avoir fait entendre ce soir dans Wagon Livre sur Radion la voix et l'œuvre d'Antonin Artaud.
Je vous remercie, j'ai l'impression qu'on a dit peu de choses et qu'il y aura encore tant d'autres aspects à éclairer.
Alors les autres aspects sont dans votre biographie, Antonin Artaud, le visionnaire hurlant aux éditions du Jasmin que l'on peut se procurer en librairie. Très bonne fin de soirée à toutes et à tous. Encore merci Laurent Vignat d'être venu de Saône-et-Loire jusque dans Lyon pour ce numéro de Wagon Livre. Merci beaucoup.
Nous sommes voisins.
Bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir et à mercredi prochain, 21h, toujours sur Radio.